Bonjour chers amis auditeurs de Radio Silence, nous sommes le vendredi 18 février 2011 et nous allons parler d'un sujet d'actualité qui est la vente du patrimoine. C'est encore un sujet qui fâche et où abondent les faux raisonnements. Il y a un lien direct entre l'immensité de ce patrimoine public et la paupérisation évidente du peuple français. La vente, toute éventuelle, vient de ressurgir à la surface à propos de l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, la mal nommée, quand on pense aux horribles massacres qui furent perpétrés il y a plus de 200 ans lors de la Révolution prétendument française. Giscard d'Estaing, soi-même, a été nommé président de la commission chargée de proposer un usage après le déménagement du ministère de la Marine. Son passé n'augure rien de bon pour économiser nos sous. L'historien Pierre Nora fait partie de la commission. Nous allons montrer comment l'immense patrimoine de l'État pourrait, dans le cadre d'un gouvernement de salut public, servir à éponger les dettes immenses créées par la légèreté, la complicité et l'avidité des gouvernements socialisants que nous connaissons depuis des décennies et qui plombent l'économie française. Ce patrimoine est immense et peut grosso modo se diviser en trois catégories, les palais, les appartements et les œuvres d'art. Laissons de côté les entreprises. Dans plusieurs livres dont Parlotte est faite, Divertissement pour accompagner le désastre français, paru chez François-Xavier de Guibert, j'ai indiqué qu'un gouvernement de salut public mettrait en vente environ 500 palais dès son arrivée au pouvoir. Il y en a d'ailleurs bien plus, quand l'État détient déjà 1750 monuments historiques. Madame Nathalie Kosciusko-Morizet est ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. À ce titre, elle règne sur 100 000 fonctionnaires environ, dont le groupe central se trouve dans une tour de la Défense à Paris. La dame ne se voit pas, évidemment, émigrer dans cette banlieue lointaine. Elle se trouve donc avec son cabinet et le train correspondant dans un somptueux hôtel particulier à Paris, correspondant mieux à son standing. C'est un exemple parmi des milliers. La liste des résidences réservées au sommet de l'État est à peu près connue. Château de Rambouillet, fort de Brégançon, manoir de Souzy-Labriche et d'autres. En regard, le président des États-Unis ne dispose que de la Maison Blanche et de Camp David, lequel est plutôt tristounet. La liste des palais à vendre dépasse immensément ce que l'on remarque au sommet de l'État et se multiplie dans tous les échelons successifs, ministères et dépendances, millefeuilles des collectivités territoriales. Il est estimé généralement que 12 000 châteaux appartiendraient à des organismes publics ou parapublics. Tel conseil général que nous connaissons possède un magnifique hôtel particulier dans la plus belle rue de la ville pour les réceptions intimes, les réceptions plus solennelles ayant lieu dans la magnifique salle à manger du président. Après les allées palais se trouvent les appartements d'État. Un rapport de l'inspection des finances indique qu'il y en aurait 137 507 au total. Admirez le 7. Leur valeur locative est de 1,4 milliard d'euros et ils sont loués pour 30 millions d'euros seulement. Le profit moyen pour chaque bénéficiaire est donc de 10 000 euros environ par an. Comme ils ne doivent pas payer d'impôts ni de charges sur cet avantage colossal, cela fait en gros un bénéfice annuel de 20 000 euros. En Suisse, pays riche parce que libre, seul le président de la Confédération et deux conseillers fédéraux ont un logement de fonction et nullement dans un palais. Les œuvres d'art représentent un patrimoine considérable et dans leur évaluation, il ne faut pas oublier les collections étatiques dont beaucoup dorment dans les caves des musées ou au mobilier national. La gestion de tout cet ensemble a été souvent critiquée par la Cour des comptes qui n'a pas manqué de signaler des disparitions inquiétantes. J'avais noté un très grand tapis de la savonnerie qui qui, mine de rien, avait dévalé les étages pour que sa trace se perde dans les bas-fonds. Dans le désordre des comptes publics, il n'y a pas d'inventaire, car personne n'a intérêt à le faire. À l'idée de le vendre, les très riches chevaliers de la dépense publique se lèveront encore serrés et inventeront de multiples arguments mensongers. Faire l'inventaire, justement, ce qui veut dire noyer le poisson. Des Chinois pourraient racheter des palais. Il faudra répondre que ce sera le prix à payer pour arrêter la paupérisation du peuple français et permettre au pays de retrouver les chemins de la prospérité perdue. Chacun des bénéficiaires abusifs s'efforcera de minimiser la valeur potentielle ou de cacher les biens dans des structures opaques. Pas vu ? Pas pris, est d'un des principes de la République fromagère. Une objection probable est que des lois interdisent la vente de ce patrimoine. Certes, mais ce qu'une loi interdit, une autre peut l'autoriser. La vraie seule difficulté est la rapacité connue des prédateurs publics qui sont prêts à se saisir de toute proie. Dans la situation zéro de la morale publique, il y a le risque de la mélancolique histoire des oligarques russes. Dans les mêmes rapports de la Cour des comptes, il y a des exemples assez décourageants, avec une bonne dose de corruption en embuscade. Quelle que soit l'immensité inconnue de l'endettement public, ce patrimoine est capable de le rembourser, ce remboursement étant le chemin nécessaire, bien que non suffisant, pour reprendre le chemin de la prospérité. Il y a cependant des conditions, et avant de les énoncer, il faut faire justice d'une thèse mensongère. Il est des politiques qui prétendent que ce patrimoine serait en quelque sorte le garant des dettes, comme dans l'actif d'une entreprise qui équilibre et au-delà le passif. C'est un pur mensonge, et les tenants d'une telle théorie veulent tout simplement continuer les déficits à leur profit et la danse devant le buffet. Quelles sont les conditions pour y arriver ? Il y a certes, comme indiqué plus tôt, des difficultés pour vendre honnêtement le patrimoine nécessaire, mais il reste pourtant un objectif fondamental. Il est impératif que les immenses fonds récoltés servent réellement au remboursement des dettes, et il faut pour cela qu'ils ne se perdent pas dans les méandres nauséabonds des déficits publics. À cette fin, il est indispensable qu'un nouveau pouvoir crée sans délai, non le simple espoir d'une faible réduction du déficit public remise à la Saint-Glinglin, mais que dès la première année, il crée un surplus public comme cela existe dans plusieurs pays. Est-ce avec des pyromanes que l'on éteint l'incendie ? Évidemment non. Or, quels que soient les partis ou les personnalités dont les programmes encombrent abusivement les journaux pour 2012, il est clair qu'il n'y a que des pyromanes. Un gouvernement de salut public implique donc l'arrivée de personnalités nouvelles, capables des plus grands sacrifices pour eux-mêmes. La rigueur au sommet s'accompagnera de la prospérité à la base. Si rien ne bouge, la danse devant le buffet continuera. Les danseurs se cooptent depuis des décennies par de multiples réseaux avec d'étranges transmissions familiales. L'orchestre médiatique chante la gloire des danseurs, non sans décrire parfois des entrechats très audacieux. Le tintamarre est tel que personne n'entend le bruit de la rue, et pourtant, dans le village global qu'est devenu la planète, et pas loin du tout, des danseurs tout aussi endiablés ont vu des parquets s'écrouler sous leurs pieds avec fracas. Chers amis auditeurs, je vous dis à mardi prochain.